Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il l'aime bien, Vianney, cette phrase, extraite d'une chanson de Le Forestier intitulée « Saltimbanque ». Mon numéro n'est pas fameux, je jongle avec ce que je peux. Lui, il jongle avec son cœur, son humanité, sa vérité, sa poésie, ses rêves et sa fantaisie. Tel un héritier de Jacques Brel, le désespoir en moi. Car il croit, Vianney, il a la foi. C'est une vieille âme, un mec bien, qui n'a rien oublié du chemin. Son nouvel album, intime et organique, a pour titre « N'attendons pas ». Elle est belle, hein, l'injonction. Et une gigantesque tournée lui offrira les plus belles scènes de France en 2021 et 2022, dont l'Olympia, les 11, 12, 13, 29, 30 et 31 mars, et l'Accor Arena de Paris, autrement dit Bercy, le 14 décembre 2021. Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse de recevoir le jeune homme.
Europe 1.
Bonjour Vianney.
Bonjour Isabelle, moi aussi je suis ravi. Et je me disais, en vous écoutant, vous êtes une chanteuse. C'est des notes, c'est plein de variations, c'est mélodieux quand vous parlez. C'est un bonheur.
Ça y est, j'ai le trac, je deviens aussi... J'ai les pommettes aussi rouges que mon pull. Bon, Vianney, en ces temps obscurs, où nos démocraties sont en proie à la barbarie, hein, pendant qu'un virus met à l'isolement la planète entière, la musique a une partition singulière à jouer. Chanter ne relève presque plus du divertissement. Chanter prend une autre résonance.
Oui, je crois beaucoup à cette idée-là. De même que sortir des livres, que lire, que sortir des films. Je pense qu'évidemment, c'est techniquement, commercialement, très compliqué de le faire en ce moment.
Hélas.
Nous, on a tenu à le faire parce que je crois à cette idée-là. Voilà, à celle que dans la brume, eh ben, on est censé, avec nos chansons, nos livres et nos films, apporter un genre de phare à l'horizon, un halo lumineux dans cette brume-là, et de dire vous n'êtes pas seul, et de proposer une évasion. Je pense que c'est une évasion, en fait, un album ou un livre ou un film.
Mais alors, vous avez toujours dit être profondément optimiste, Vianney. Il doit quand même être malmené en ce moment, cet optimisme. Mais vous êtes croyant, pratiquant. Est-ce que votre foi prend le relais quand l'optimisme est malmené?
Je pense que c'est à la fois dans ces moments-là qu'il faut compter là-dessus. Et paradoxalement, c'est évidemment dans ces périodes que c'est très difficile de rester optimiste, de continuer à croire, à espérer. Moi, je suis fait ainsi, j'ai du mal à faire autrement, donc j'y crois. Je ne pense pas du tout que ce sera facile d'un coup. Je pense qu'on devra se relever, que ça demandera des efforts. Mais en revanche, je crois qu'en effet, tout ira mieux. C'est sûr que je suis persuadé de ça. Mais je pense que c'est toujours plus facile d'être optimiste quand on n'est pas... totalement touché. Moi, j'ai perdu personne autour de moi de cette maladie. Personne n'a été décapité de mon entourage. En revanche, c'est vrai que ce sont comme mes frères qui tombent à chaque fois. Donc, je suis touché aussi. Mais il me reste un tant soit peu de recul pour rester optimiste.
Mais alors, bon, la musique se doit donc de générer de l'émotion heureuse. Et la foi, pour ceux qui l'ont, en tout cas, la foi permet d'espérer toujours et encore. Mais vous n'avez jamais douté, vous n'avez jamais craint que le ciel soit vide.
Si, je pense que le doute existe. C'est la chanson de Souchon.
Ouais.
C'est « Et si en plus, il n'y a personne ?»
Voilà.
Mais après, comment expliquer une foi? Comment expliquer le fait d'imaginer qu'il y a quelque chose d'autre? C'est très compliqué, parce que ce n'est pas une opinion, quoi. Je n'ai pas réfléchi à tout ça.
Ça n'est pas une opinion.
Non, c'est une quête.
Ouais.
Voilà, ce qui a développé chez moi un genre de foi et d'espérance, c'est le fait de voyager tout seul. Le fait de dormir dehors pendant des mois. Voilà, c'est la vraie difficulté de n'avoir rien et de devoir avancer. Je ne sais pas qui m'a lié à quelque chose de supérieur, mais c'est mon aventure à moi. Jamais je vais essayer de convaincre qui que ce soit. C'est pour ça que ces barbares se trompent. On ne convainc pas les gens de croire. Ça n'existe pas. Sinon, ça s'appelle de la manipulation. Mais une foi saine, une croyance saine, belle, elle est volontaire, personnelle, intime. Elle ne regarde que nous. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais chercher à ennuyer qui que ce soit avec ça, ni à convertir. Tout ce qu'on peut convertir, ce sont les cœurs. Essayer de les ouvrir un peu plus. Mais les convertir à des idées, à une croyance... C'est très complexe. Voilà.
Que c'est bon de vous entendre parler cet après-midi ainsi, Vianney. Alors, on va revenir à la musique. Pourquoi avez-vous déclaré au journal Le Parisien au sujet du nouvel album, qui a pour titre, je le rappelle, la plus belle injonction qui soit, « N'attendons pas ». Pourquoi donc avez-vous déclaré « J'ai préparé cet album comme si c'était le dernier ».
Parce que c'est vrai, honnêtement, c'est comme si je voulais tout mettre dedans. Et il y avait même, carrément pour tout vous dire, moi je sais que j'ai des très proches à qui j'avais donné mes codes d'ordi et tout, parce que je leur disais vraiment, s'il m'arrive un truc, s'il te plaît, tu pourras au moins sortir les chansons, comme ça t'as les codes. Je sais pas, c'était comme si dans ma tête c'était clair que tout allait peut-être s'arrêter, là, donc que je devais vraiment tout donner. C'est comment expliquer ça, je sais pas, mais je ressentais ça.
Alors vous avez donc travaillé seul sur son nouvel album, peaufinant les sons, les harmonies, écrivant vous-même les partitions de cordes, tel un orchestrateur chevronné, explorant la technique, les types de micros pour avoir le meilleur grain de voix. Tout ça dans le studio d'enregistrement que vous êtes aménagé sur vos terres, comme l'a fait d'ailleurs Calogero, qui ne bosse que chez lui. Le travail est différent quand il est produit dans sa propre bulle.
Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. En fait, il est différent à chaque fois qu'on change de lieu. Moi, je suis sûr de ça. En revanche, être dans sa bulle, ne pas être pressé par le temps, pouvoir prendre le temps de me tromper, le temps d'échouer, de réessayer, d'enregistrer, d'avancer, c'est long tout ça. Donc voilà, j'aime bien me dire qu'être chez soi permet ça.
Alors Vianney, le rap, il s'est majoritairement imposé devant la chanson française, n'est-ce pas ? C'est peut-être ce qui est le plus diffusé sur les ondes, le rap. Composer et chanter tel que vous le faites, comme ça, au plus près de l'intime, vraiment cet album organique, c'est le terme qui convient, c'est presque être un rebelle à contre-courant.
Bah oui, mais je pense que c'est malgré moi. Moi, j'ai juste fait un truc qui répondait à mes envies. Mais il se trouve qu'en effet, aujourd'hui, on n'aime pas le dénuement que moi je chéris dans mes chansons, où c'est pas très
c'était
en vogue.
Pur.
Ouais, voilà. Et puis oui, il y a une vraie. Il y a une tendance qui est réelle au rap, où beaucoup disent que c'est la nouvelle variété. Et c'est une réalité, ce truc-là. Et moi, je ne m'en plains pas du tout. Je pense qu'il faut juste faire ce qui nous ressemble. Mais moi, c'est vrai que je suis pétri de chansons françaises, pas que de rap, quoi. Voilà, y a du rap, il y a de la chanson, et j'adore le rock. Et il y a plein de choses. Donc, j'adore la folk, le rapport à la vibration, l'instrument. Donc, c'est vrai que j'aime bien mettre de vrais instruments dans mes chansons, déjà. Et ça, en ce moment, c'est sûr que c'est pas ce qui est le plus courant.
Voilà. Alors, vous venez de parler de dénuement, d'épure. Effectivement, par exemple, vous triomphez seul sur scène, juste accompagné de votre guitare. Vous avez fait ce temple gigantesque qui est Bercy. Moi, je dis toujours Bercy, je trouve que c'est mieux que dire Accor, Arena, voilà. Face à 20 000 personnes, donc seul sur scène avec une guitare. Aucun chanteur jamais n'a osé un tel pari.
Peut-être, mais après je sais pas, c'était tellement j'aime tellement ça, le guitare-voix, je veux dire c'est un format...
Enfin vous aviez 20 000 personnes qui faisaient les chœurs. Hein.
Ouais, ils chantaient grave en plus.
J'ai assisté, absolument, c'est impressionnant. Hein.
Ah c'est chouette, ouais, moi j'adore le guitare-voix, parce qu'il n'y a rien entre les gens et moi, il y a une guitare quoi, voilà. Il y a une guitare et il y a cette, le fait de ne pas être contraint par une structure de chanson, par un tempo qu'on aurait dans les oreilles, machin, ça fait qu'on est très libre de modifier les chansons, de les allonger ou les rétrécir, les reprendre. Voilà, c'est ça que permet le guitare-voix.
On retrouve tout de suite Vianney.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
N'attendons pas d'écouter le nouvel album de Vianney qui porte ce titre. Vianney est cet après-midi mon invité. Cher Vianney, alors j'ai cherché... Et je n'ai pas trouvé d'autre chanteur que vous, passé par le lycée militaire de Saint-Cyr, donc lycée sous contrôle du ministère des Armées et situé dans les bâtiments historiques de la maison royale de Saint-Louis. Il paraît que c'est vous qui aviez demandé à intégrer ce lycée militaire. Pour quelle raison ?
Ouais, j'étais en troisième, j'avais 14-15 ans et j'avais besoin... Déjà, la pension, ça me faisait bien rêver. Je sais pas, j'avais besoin, j'étais en crise d'ado, je voulais être loin de mes parents.
Pas nombreux à rêver de pension.
Ouais, mais franchement, quand on fait sa petite crise, on était très content de se projeter en pension. Donc, moi, je faisais ma crise, c'était ça. Et puis, il y avait l'uniforme là-bas. Et je sais pas, dans le collège où j'étais, les vêtements, il y avait une vraie importance. Et ça me saoulait. Ça me saoulait, parce que, bon, peut-être parce que j'avais pas les bons vêtements. Mais en tous les cas, ça me saoulait. Et l'uniforme, je sais pas, je m'étais dit, ça... Ça va mettre tout le monde d'équerre, tout le monde à égalité, et je trouvais ça chouette, voilà.
Vous n'imaginez pas devenir pilote dans l'armée comme votre père, pilote d'hélicoptère de combat qui, d'ailleurs, avait participé pendant la guerre du Golfe à l'opération Daguet. Vous ne vouliez pas prendre cet aiguillage-là?
Non, 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 non. Je trouvais ça super beau, super chouette. J'ai plein de copains qui ont suivi cette voie, du coup, des copains du lycée. Mais non, non, je sais pas, c'était pas... C'était... J'y ai pensé parfois, mais en fait, j'avais tellement de mal à me projeter tout court que c'était dur d'avoir des rêves, des projets comme ça.
Alors, Vianney, vous avez des parents impressionnants, car tous deux, quand vous étiez enfant, étaient pilotes. Votre père, donc, pilote d'hélicoptère de combat, et votre maman, pilote d'aéronef et instructrice sur Cessna. Le Cessna, c'est un petit avion très léger, monomoteur, à hélice. Avec lequel des deux avez-vous le plus volé, enfant? Ne me dites pas avec aucun.
Non, alors, on a peu volé avec mon père, parce que c'était pilote d'hélicoptère dans l'armée. Mais en revanche, si, ma maman quand même nous a emmené quelques fois.
Oh, ouais. Ça doit être magique de voler dans l'espace avec sa mère aux commandes.
Ouais, carrément. Après, la grande déception de mes parents, c'est que nous, on n'a pas du tout accroché comme eux. Et nous, c'était peut-être du coup un peu banal.
C'est-à-dire
parce que
nous, les quatre garçons, parce que vous avez trois frères.
On est quatre mecs, exactement. Et nous,
aucun ne voulait voler.
Aucun qui a passé son brevet, son truc. C'est le grand désarroi de mes parents. Entre guillemets, parce que bien sûr ils nous suivent sur... Mais eux, c'est tellement leur passion, ils sont pétris de ce truc-là. Donc je pense, je sais pas, ça faisait partie de nos vies, point, parce que c'était la passion de nos parents. Mais du coup, je sais pas, nous on s'est pas mis dedans du tout.
Bon, il est moins dangereux d'être pâtissier, vos parents étaient pilotes. Vous n'aviez pas peur pour eux quand même? Par exemple, quand votre père partait en mission?
Non, mon papa a perdu beaucoup d'amis à l'armée, mais maman aussi a perdu des amis pilotes. C'est un métier qui est extrêmement dangereux. Il se trouve qu'en plus, en conditions comme mon père à la guerre, quoi. Là, vraiment, il y a eu de la casse, souvent. Donc, c'est un truc auquel je suis vraiment sensible, hein. Je suis conscient de ça.
Ouais.
Mais évidemment, enfant, je n'y pensais pas, même quand mon père partait quelques mois. Je pensais pas à ça.
Votre maman, Vianney, elle a évolué dans un milieu, surtout à l'époque, extrêmement masculin, puisqu'elle enseignait le pilotage sur des Cessna et elle a eu quatre garçons. En fait, votre mère, c'est une héroïne.
Je suis d'accord.
C'est ça, hein ?
Je suis grave d'accord, ouais.
Et surtout, il faut se remettre, parce que maintenant, on voit des femmes piloter, il y a plein de reportages comme ça à la télé, mais à l'époque, j'imagine qu'elles étaient peu nombreuses.
Oui, oui, elles étaient peu nombreuses. Je sais, ma mère... Elle était un peu seule dans son délire en tant que femme. Mais bon, c'est comme ça, c'est cette passion qui a rassemblé mes parents. Donc heureusement qu'elle était pilote. Voilà. Je me dis souvent ça, sinon je ne serais pas là. Ils se sont rencontrés sur un aérodrome. Ce n'est arrivé que parce que tous les deux adoraient l'aviation.
Voilà, exactement. Voilà. Bon, enfin, merci l'aviation. Alors en plus, votre maman, ensuite, elle est devenue agrégée d'économie. Elle a carrément changé de vie, agrégée d'économie. Elle bossait la nuit. Comment faisait-elle pour élever ses quatre garçons?
Ouais, en fait, c'était compliqué d'être instructeur d'avion et maman de quatre mecs. Parce que en fait, c'est une passion qui est dévorante, qui est exigeante. Et puis, il y a le danger. Voilà, je crois que mes parents, petit à petit, ils ont abandonné aussi le pilotage pour ces raisons-là. Et ma mère, en vrai, c'est une tronche. Elle est smart. Elle est trop intelligente. Donc, à un moment donné, elle s'est motivée. Et comme elle aimait enseigner, transmettre, c'est ce qu'elle faisait avec ses avions. Elle aimait ça. Elle avait une fibre un peu éco. Donc, elle a travaillé là-dedans. Et maintenant, elle est enseignante, toujours. Je suis un fils d'enseignant aujourd'hui. Ouais, c'est super.
Bravo. Bon, alors vos parents ont donc mis la barre très haute, mais l'ambiance à la maison n'était pas du tout austère. Hein. Il paraît que votre père adorait reprendre à la guitare le répertoire de Maxime Le Forestier, surtout ses chansons antimilitaristes, comme celle de Brassens. Et puis parfois, il s'aventurait à chanter du Dick Annegarn. Il avait un certain talent, votre papa, pour chanter?
Oui, il joue super de la guitare, il joue super. Mais même petit, parfois, il nous a lu ses poésies. Récemment, il nous a lu une pièce de théâtre. Il aime bien, mon papa, il aime bien écrire, il aime bien...
Vous voulez dire une pièce qu'il a écrite?
Ouais, comme ça, pour son plaisir. Voilà, mon père, il est comme ça, il est très... C'est un militaire, j'allais dire au pied d'argile, plutôt au cœur d'or. Voilà, il est très sensible, il est très curieux. Donc, moi, je pense qu'on a... Ça a été vraiment notre chance d'enfant, d'avoir des parents... qui certes n'ont rien à voir avec le monde de la musique et tout. Moi, je suis pas du tout un enfant de la balle, quoi.
Mais aussi curieux de
tout. Mais
ils
étaient curieux et passionnés, donc ils nous ont vraiment transmis ça.
Donc, à l'âge de 12 ans, normal, vous, à votre tour, vous découvrez une passion pour la guitare et puis pour la chanson. Je voudrais savoir, Vianney, c'est bien votre papa, quand vous aviez, je crois, 15 ans, qui vous a présenté à des musiciens pour enregistrer votre premier disque autoproduit avec votre frère aîné ?
Ouais, en fait, on avait un groupe avec mon frère aîné. On n'avait pas grand monde avec qui jouer. Et mon père, il avait un copain au bureau qui faisait de la musique dans son studio le dimanche, quoi. Et donc, on l'a rencontré, il était batteur, c'était super sympa. On a passé des trop bons moments ensemble. On a monté un petit groupe, du coup, avec d'autres copains, qui étaient que des musiciens amateurs. Hein. Et on a adoré. Franchement, dans le groupe, il y avait du coup un postier, un autre qui était enseignant avec des enfants, qui travaillait avec les enfants. Voilà, et chacun prenait une basse, une batterie, un saxophone. Nous, on était là avec notre clavier, notre guitare. Et puis, on s'est fait ouais, des petits concerts, on a enregistré un petit truc comme ça entre nous.
Vous en avez gardé un exemplaire de cet enregistrement ?
En fait, j'écrivais avec mon frère.
Ça ressemblait à quoi ? Alors, quel style ?
C'était très pop, mais c'était très orienté texte, parce que c'est mon frère qui écrivait les textes, j'écrivais pas les textes, je faisais que les mélodies, et mon frère écrivait super bien, il adorait lire et tout, donc c'était assez littéraire, voilà, c'était de la pop un peu lettreuse. Voilà.
Ce frère aîné, il est devenu romancier ?
Non, ah non, c'est l'autre ça. Ça, c'est celui après. C'est un de mes petits frères qui est romancier.
Mais vous partagez tellement de talents dans cette famille, on s'y perd.
Non, mais ouais, on est
passionnés. C'est le petit frère qui est romancier.
Ouais, exactement, Édouard Bureau. Et Édouard, il a une plume extraordinaire. Extraordinaire, mais on l'a toujours su que c'était lui qui écrivait le mieux. Voilà, ça nous arrache la tronche, mais c'est comme ça. C'est lui qui écrit le mieux. Et puis, il est boulimique de lecture, en fait. Nous, on pense même que c'est... Il y a un dérangement, c'est pas possible. Il lit tous les jours un bouquin au moins. Il lit tout le temps. C'est sa vie, quoi. Donc, aujourd'hui, il est romancier. En même temps, il travaille chez un éditeur. Parce que, voilà, c'est le monde des livres qui le passionne depuis toujours. Et dès le collège, hein, il écrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie. Voilà, il est très productif. C'est des gros pavés à chaque fois. Mais surtout, c'est beau.
Mais que c'est bon de parler avec Vianney. Mon invité, cet après-midi. Alors, on fait une pause très courte. Promis. Et on se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Son talent et son intégrité mettent d'accord tous les publics, toutes les générations. Je reçois Vianney, dont le nouvel album a pour titre « N'attendons pas ». Alors, Vianney, des études montrent que, en fait, nous sommes conditionnés par nos prénoms. S'appeler Vianney, Ambroise ou Kevin ne fait pas appel aux mêmes références et raconte des choses sur le milieu social. Vos parents ont choisi de vous appeler Vianney parce qu'ils aimaient la sonorité de ce prénom ? Ou bien c'est en hommage au curé d'Ars, le saint patron de tous les curés du monde, Jean-Marie Vianney ?
Je pense que c'est un peu les deux. Mais au début, je m'appelais Antoine. Quand je suis né...
24 heures, hein, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, c'est ça. Ils m'ont dit, vas-y, tu t'appelles Antoine. Et en fait, ils m'ont appelé Vianney. Donc, je ne sais pas, il y avait une incertitude quand même.
Au bout de 24 heures, ils ont changé d'avis.
Ouais, franchement, ils ont changé d'avis après m'avoir nommé Antoine. Mais non, oui, il y a bien sûr une référence au curé d'Ars, qui était un chouette gars, le curé d'Ars. C'était un mec très... Très simple, voilà, très charismatique et simple à la fois.
Mais vous croyez à ce conditionnement des prénoms ?
Ah ouais, oui. Ah bah bien sûr, ouais. Oui. Ouais, ouais, je pense évidemment. Il y a des prénoms qui sont des blagues dans notre pays. Donc, vous disiez, mais Kevin, il y a plein de gens qui disent un Kevin. En vrai, c'est terrible, c'est terriblement injuste surtout. Mais c'est vrai que ça conditionne. Bah, par exemple, je pense que si je m'étais appelé Antoine pour devenir chanteur, c'était déjà pris, quoi. Tu vois, j'aurais dû trouver autre chose.
Bon, alors, comme dans beaucoup de familles catholiques, vous étiez scout à l'adolescence, car les valeurs de Baden-Powell rejoignaient celles de votre engagement spirituel. On en parle rarement, ça, du scoutisme. C'est vraiment une école de solidarité, de débrouillardise. Et puis, ça demande un engagement très, très fort, le scoutisme.
Ouais, et puis le scoutisme, c'est une immense famille. C'est pas du tout que les cathos. Il y a les scouts israélites, les scouts musulmans. Mais quoi qu'il arrive, il y a des lois. On dit que le scout est frère et de tout autre scout. Donc le scoutisme, c'est une grande famille. Et franchement, je trouve que ça véhicule des trucs super chouettes. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la nature,
c'est
déjà,
ça.
Qui est super. On apprend un peu la vie en groupe, en communauté, quoi. On n'a pas le droit d'être égoïste au scout. On peut tenter, mais ça se passe mal. Ça ne sert pas l'histoire, quoi.
Pour les enfants des villes, c'est une découverte hallucinante, le scoutisme.
Pour les petits parigots, le scoutisme, c'est même, ça devrait être obligatoire. Parce que c'est vrai que, évidemment...
Parce que, vous savez quoi ? Je suis allée sur le net revoir le manuel d'outillage du parfait petit scout.
Ouais,
alors, la boussole, le canif, la corde, la lanterne, la toile de tente. Avec tout ça, on est roi du monde. On peut parer à tout, quoi.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça.
Et moi, quand je partais en voyage à vélo tout seul, j'avais exactement ça. J'avais mon couteau, de quoi allumer un feu. Voilà, ça forme. Hein. Après, moi, je sais que je peux me débrouiller un peu n'importe où avec n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça m'aide franchement dans ma vie de tous les jours, même dans ma vie de chanteur. C'est bizarre, hein, mais quand je monte sur scène à Bercy, rien ne peut m'arriver. Puisque seul dehors, par moins 8 degrés, je peux me démerder. Donc, sur scène à Bercy, c'est du luxe.
Alors, vous avez, Vianney, commencé Louveteau. Vous avez fini chef de patrouille et membre des guides et scouts d'Europe.
C'est marrant, j'en parle jamais. Tout ça, ça me fait plaisir.
Ah bah, écoutez, ici, on ne parle que des choses dont on ne parle jamais ailleurs. Quelles sont les aventures, les expériences les plus intenses, les plus ardues que vous avez vécues en tant que scout ? Puisque vous avez beaucoup, beaucoup roulé à travers toute l'Europe sur votre petit vélo.
Au scout, il y a un truc qui est génial. Ça s'appelle les raids. Les raids, les explorations. C'est un truc où on est, faut se dire, on est tout jeune à ce moment-là, on est adolescent. Et on doit se débrouiller pendant 3 jours. On a un point A de départ, un point B d'arrivée. Et il faut se démerder. Et on a droit à tout, sauf de faire de l'autostop. Donc c'est à pied. On avance, c'est normalement une grande distance. On dort dehors ou chez l'habitant. On mange comme on peut. Et on doit rapporter tout ça dans un petit carnet. Et ça, je trouvais ça mortel. Parce qu'on était vraiment libre. On était, comment dire, vulnérable.
Vulnérable, je trouvais ça bien génial. Sûr.
Donc,
ça n'inquiétait pas les parents ?
Les parents, normalement, ils aiment pas. Hein. De toute façon, quand on est... Ils n'aiment pas, mais ils le font pour notre bien. Ils prennent sur eux.
Alors, Alain Souchon a adoré être scout. Vous aussi, Vianney, on l'entend. Est-ce que, quand vous étiez scout, est-ce que vous chantiez des airs de votre composition pendant les veillées ? Puisque à l'âge de 12 ans, vous passionniez pour la guitare et le chant. Ouais. Donc vous avez essayé d'infuser tout ça de musique ou pas ?
Ouais, je le faisais beaucoup. J'adorais improviser à ce moment-là. Donc j'adorais écrire des chansons sur le moment qu'on vivait autour du feu, le truc sur les gens de la troupe de scout, tout ça. C'était très musical, nous. Après, il y a un autre chanteur... moi, j'en ai beaucoup parlé avec Jean-Jacques Goldman.
Oui, qui aussi a fait du scoutisme.
Ah ouais, c'est un super scout, ouais, carrément, c'est
Attendez,
important pour lui, quoi.
Extraordinaire, parce que finalement, les grands dans le métier de la chanson, c'est étonnant, hein, ce dénominateur commun, le scoutisme.
Ouais, c'est marrant, on est quelques-uns, en fait. Hein, ouais.
Eh oui.
C'est rigolo, mais et c'est drôle, parce que je voyais il y a un super mec, Nekfeu, qui est quand même un rappeur si talentueux. Et dans une émission, il disait, franchement, j'ai pas été scout, mais... J'adore le concept, l'idée. Il avait compris quand même le truc. Les scouts, c'est pas du tout sectaire. Franchement, c'est pas du tout un truc de coinsos. C'est vraiment un truc de rebelle aujourd'hui. C'est vraiment de choisir, à la place de se faire des soirées le week-end à se déchirer la gueule, et ben on se met en forêt, on dort dehors. Et on apprend à faire du feu, on apprend à aider l'autre, on apprend à agir en communauté, à regarder la nature. Donc oui, c'est sûr que c'est pas classique par rapport à ce que doivent embrasser les jeunes logiquement aujourd'hui. Mais ça apporte beaucoup. Voilà.
Alors Vianney, grâce à cet esprit de débrouillardise et d'assurance que donne le scoutisme, l'année de vos 18 ans, vous avez décidé de vous rendre, juste en faisant du stop, jusqu'à Jérusalem. J'ai vérifié Paris-Jérusalem. Par la route, c'est quand même 4600 km. Ça fait quand même un sacré périple. Vous dormiez chez l'habitant ou vous aviez une toile de tente dans votre sac à dos ? Ça s'est passé comment ?
Je dormais dehors, ouais, parfois chez l'habitant dès qu'on me proposait, mais sinon non, je dormais n'importe où, quoi. J'avais même pas de tente, non, je mettais mon duvet par terre, voilà.
Mais incroyable, surtout que, hélas, arrivé à Chypre, vous n'aviez pas l'argent nécessaire pour régler une taxe qui vous permettait de passer d'un territoire à l'autre, donc il a fallu refaire 3900 km en stop pour rentrer, c'est
Alors,
ça
Non, en gros, il me restait, j'avais vraiment pas de thune. Il me restait 60 balles et il fallait prendre le bateau pour aller en Israël. Après, je ne savais pas comment je rentrais. Bon, bref. Et du coup, je pouvais rien acheter avec 60 balles. Si ce n'est, il y avait un billet d'avion qui me ramenait à Barcelone, à 26 €, je me souviens. J'étais super content, donc j'avais pris cet avion. Et puis, j'avais atterri à Barcelone, puis j'étais rentré chez moi en stop depuis Barcelone. Voilà.
Bon, alors, je comprends qu'effectivement, la vie d'aujourd'hui, c'est un pur luxe. Quand on entre sur la scène de l'Accor Arena de Paris devant 20 000 personnes, et comme ça va vous arriver d'ailleurs le 14 décembre 2021, à nouveau, grâce à la tournée vraiment faite de dates dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, avec le nouvel album « N'attendons pas ». Et bien justement, n'attendons pas de retrouver Vianney. La pause sera très courte. À tout de suite avec Vianney.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Le nouvel album de Vianney est sans doute le plus intime, mais la tournée orchestrée autour sera en 2021 et 2022 gigantesque avec tous les Zéniths de France, l'Olympia les 11, 12, 13, 29, 30 et 31 mars et l'Accor Arena de Paris le 14 décembre 2021. Vianney, vous êtes vêtu de façon très classique et très sage pour quelqu'un qui a fait S-Mode tout de même. S-Mode, l'une des écoles de mode les plus fameuses qui a formé par exemple l'actuel directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, mais aussi Simon Jacquemus, Franck Sorbier, Alain Vautier, donc des créateurs et des couturiers adulés dans le monde entier. Être sorti diplômé d'S-Mode, ça n'a pas laissé en vous le goût de l'opulence ou on va dire d'une fantaisie voilà, manifeste dans l'art de se vêtir.
Non, c'est vrai, mais j'ai jamais eu ça. Moi, j'étais là-bas vraiment pour des pures raisons d'amour de l'artisanat. C'est ça qui me plaisait, l'amour du dessin, de la création, de la couture. Mais c'était pas du tout m'habiller moi-même de manière exubérante. C'est vrai que ça m'a jamais même traversé l'esprit.
Mais déjà l'idée de faire cette école de mode, parce que vous étiez entouré de gens qui, eux, avaient peut-être un certain sens de l'excentricité ou voulaient créer justement leur propre style. C'était pas ça.
Non, c'est vrai. J'avais ma vision vraiment de ce que je voulais faire. C'était très clair quand je suis arrivé. Et j'ai adoré ça. En fait, j'attendais ça depuis tout petit. Que d'avoir le droit de dessiner, de fabriquer, de coudre, de passer des nuits blanches sur un truc qui me passionnait. C'était la première fois depuis toujours. À l'école, j'avais toujours l'impression de subir et je me disais, bon, en fait, c'est que ça doit être ça la vie, quoi. Mais l'école, j'ai jamais pris plaisir du tout.
Donc, dessiner des patronages, coudre.
Voilà, je découvrais que réellement, j'avais bien fait d'aller au bout de cette passion-là, de cette idée, parce que j'avais le droit d'être passionné et de passer des nuits blanches sur mon ouvrage, mes ouvrages. Moi, c'est ça qui me plaisait, c'était créer, fabriquer.
Donc, le vêtement, pour vous, plus qu'un style, c'est une construction.
Ah, moi, c'est réellement ça. On construit une silhouette et donc on transmet un message avec une silhouette. Avec des matières, on transmet quelque chose. Une matière synthétique ne va pas du tout raconter la même chose qu'un lin brut et froissé. Ça n'a rien à voir. Donc je pense qu'on arrive à véhiculer des idées. C'est en ça que c'est très beau, la mode. Mais c'est très beau pour sa dimension artisanale. Je pense qu'à côté, il y a toute une dimension marketing qui n'a rien à voir avec finalement l'artisanat qui, moi, me touche.
Alors, de la même façon que le vêtement est un message, l'épure c'est un style, la simplicité c'est un art, c'est ça ? Parce que c'est quand même étonnant, la mode, en théorie c'est l'apparence, hein, c'est l'art de s'apprêter pour se montrer aux autres. Bon, c'est tout le contraire de ce que vous êtes, parce que vous êtes dans une simplicité absolue. Alors bon, même si c'est un a priori grossier, voilà la manière dont je vais m'exprimer, mais la mode c'est quand même l'art de travailler le chiffon. Donc... quand on songe à vous, la foi, l'engagement spirituel, la vie rude des scouts d'Europe, tels de jeunes aventuriers lâchés en pleine nature, et tout à coup, paf, on se retrouve avec le travail quand même de l'artifice dans une école de mode mondialement connue, S-Mode.
Ouais.
Comment vous regardez vos camarades là-bas ?
Déjà, ce qui était chouette dans cette école, en vrai, il y avait tous les styles. Donc, il y avait du style pour les non-stylés, et dont je faisais partie. Il y avait de la place pour eux. Non, moi je me suis toujours senti super bien et les profs, on était très complices, la directrice aussi, ils avaient totalement compris pourquoi j'étais là dès le début, donc c'est là aussi où je leur dirai jamais assez merci de m'avoir permis de comprendre qu'en fait j'étais un gros travailleur et qu'en fait j'avais des passions au bout desquelles il fallait que j'aille, vraiment, voilà, il fallait que je garde cette volonté que j'ai toujours au fond de moi, hein, mais il fallait que je lui fasse confiance à cette envie-là. Et donc, j'ai grandi là-bas énormément. C'était génial. Et je ne sais pas, il y a une émission il y a peu de temps où j'étais avec un copain, un chanteur, Amir. Il y avait sa styliste qui était là. Il a sa styliste. Ouais. Il y a je ne sais pas combien de vêtements dans le truc. Moi, j'hallucine, quoi. Franchement, je me sens un plouc. Et sa styliste, elle se voulait très gentille. Et je ne savais pas du tout comment le prendre. Elle m'a dit, mais tu vois, toi, ce qui est bien, c'est que tu as un no-look. Donc c'était vraiment ultra blessant et à la fois je peux pas aller contre cette idée, c'est vrai que je reconnais avoir des grosses lacunes en termes de style, mais On va dire que c'est ma couleur à moi, voilà, c'est comme
mais
ça.
Bien sûr.
Ça me facilite toute la vie, moi. Voilà, c'est très clair dans ma tête ce que je mets
secondes.
Le matin. Ah ouais, moi, c'est très rapide. Très rapide.
Bon, alors, vous nous avez dit que pendant que vous faisiez S-Mod, vous aviez toutes ces passions comme ça en tête. Il y en a une, à un moment donné, qui a quand même devancé les autres. Hein. Elle a pris le contrôle de tout. C'est la passion pour la musique.
Ouais.
Donc, comment ça s'est déroulé? Vous sortez d'S-Mod. Et que se passe-t-il parce que, bon, nous, on vous connaît, en fait, par ce titre qui s'est imposé à nous comme une évidence lumineuse. Hein, pas là, mais t'es où, pas là, il y a 6 ans de ça. Mais la vraie histoire de l'éclosion, de la naissance de l'artiste, qui vous a emmené dans un vrai studio d'enregistrement et vous a dit, vas-y, chante.
C'est une femme qui porte votre prénom.
Non.
Elle s'appelle Isabelle. Et ouais, j'avais une Isabelle dans ma vie avant. Voilà. Et, non, mais elle est toujours dans ma vie. C'est la première personne à qui j'ai joué mes chansons, en fait. J'avais 21 ans et j'avais jamais joué mes chansons à moi. Et d'un coup, je lui ai joué et elle est devenue ma manageuse à ce moment-là. Elle y croyait 1000 fois plus que moi. Et c'est elle qui m'a mis les pieds dans un studio et qui m'a dit les chansons que tu m'as jouées, enregistre-les. Et je l'ai fait, j'étais étudiant. Et puis elle est allée voir des maisons de disques avec ces chansons-là dans son
pas
sac.
Pas vous, elle.
Ouais, c'est elle. Ah ouais, franchement, je lui dois beaucoup parce que en réalité, je l'aurais jamais fait. J'aurais jamais eu. J'aurais même pas pensé. J'aurais.
Puis c'est difficile de démarcher pour soi.
Ah ouais, c'est pas. J'aurais pas été à l'aise avec ça. Ouais, ouais. Vendre sa propre soupe. Non. J'arrive pas.
Depuis Vianney, vous avez été sacré meilleur interprète masculin aux Victoires de la musique en 2016. Puis décroché un nouveau trophée de la meilleure chanson dans un album éponyme vendu à 850 000 exemplaires. Vous avez triomphé à Bercy. Vous avez fait un duo magistral avec Maître Gims. Si je vous aime, c'est la même. Et puis vous avez écrit des chansons pour Kenji Chirac, pour Patrick Bruel et pour Céline Dion. Les gens le savent peut-être moins, ça. Vous avez écrit pour Céline Dion. Comment ça s'est passé? Vous l'avez rencontrée ou bien ça s'est fait à distance? C'était une demande de son manager?
Ça s'est vraiment fait à distance. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais rencontré Céline. C'est rare quand j'écris pour d'autres. C'est vrai que j'aime bien les rencontrer. La première chanson que j'ai écrite pour quelqu'un d'autre, c'était pour Pomme, une chanteuse qui est chouette, et elle, j'avais rencontré tout ça, et je me suis dit, là c'est cool, ça me vient facilement. En revanche, pour quelqu'un d'autre que je ne connais pas, d'écrire une chanson, ça a un peu moins de sens, mais avec Céline, c'était la deuxième fois que j'écrivais pour quelqu'un d'autre, et je sais pas, ça m'a beaucoup excité, donc je l'ai fait, ça a marché, ça l'a fait, c'était super, c'était une chouette expérience.
Ouais, puis surtout qu'on n'est pas à l'abri d'un tube planétaire hein, quand on compose pour Céline Dion, donc c'est un album qui s'est vendu dans le monde entier. Voilà. Alors, on parle musique, mais il faut aussi parler cinéma. Voilà, Adjane Curis qui rêvait de vous faire tourner, vous n'avez pas dit non. Et heureusement, faut dire que dans ce film intitulé Ma mère est folle, vous teniez le premier rôle masculin, mais vous étiez en plus face à Fanny Ardant. Et vous étiez franchement impressionnant de naturel. Pourtant, vous confiez, acteur, c'est le métier inverse du métier de chanteur. Puisque le chanteur, lui, il exprime profondément ce qu'il est. Alors, l'expérience avec des mots qui ne sont pas les vôtres, des sentiments qui ne sont pas les vôtres, des attitudes qui ne sont pas les vôtres, vous l'avez vécu comment ?
Là, j'ai adoré, en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien. Peut-être parce que c'était vraiment un moment où il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de mon projet, donc de mes chansons, donc de moi. Et là, d'un coup, j'étais quelqu'un d'autre. Et je pense que ça m'a même fait du bien. Voilà, au-delà du fait que ça m'ait énormément plu. Ça, c'est clair que c'était je sais pas comment expliquer, c'est un plaisir de jouer à la comédie, quoi. J'ai adoré ça. Mais en plus, j'étais quelqu'un d'autre. Et ça, c'était chouette.
Votre maman de cinéma, Fanny Ardant, vous l'avez parfois au téléphone ?
Non, on s'est écrit des lettres avec Fanny. Voilà, je crois que
ça c'est beau. Là,
j'ai même pas son numéro.
D'avoir un lien comme ça, ouais. D'une manière épistolaire, c'est beau.
Je pense, je ne sais même pas si elle a un portable. Je pense que oui, mais je lui ai jamais demandé. Non, j'avais son adresse, donc c'est vrai que je lui écrivais des lettres. Je trouvais ça beaucoup, beaucoup mieux d'avoir des lettres de Fanny Ardant qu'un texto.
On retrouve tout de suite Vianney.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Il met d'accord tous les publics. Ceux de Télérama, comme ceux des médias populaires, je reçois Vianney, dont le nouvel album a pour titre « N'attendons pas ». Alors, Vianney, il paraît que vous ne regardez jamais la télé. Pourtant, au début de l'année prochaine, vous allez vous installer dans l'un des fauteuils rouges pivotants les plus célèbres de la télévision française. Après avoir refusé pendant 4 ans d'intégrer le jury de The Voice, enfin, Vous avez dit oui et vous serez donc coach de la 10e saison de The Voice aux côtés de Marc Lavoine, Amel Bent et Florent Pagny. Que s'est-il passé entre l'année dernière et cette année pour que enfin vous acceptiez ?
En fait, je crois que c'est vraiment le chemin que j'ai pu faire en studio à écrire pour d'autres ces deux dernières années, où je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait. Et j'ai finalement fait ce qu'eux appellent le coaching. Mais moi c'était plus, comment dire, c'était du conseil et de la réalisation, où je me retrouvais face à un artiste et il s'agissait de sublimer ce qu'il me proposait.
Ouais.
Voilà, c'était l'ambition, c'est ça, dès que je suis en studio avec celui avec qui je travaille. Et...
D'ailleurs, vous avez écrit le dernier titre pour Les Enfoirés.
Ouais, exactement.
Les Enfoirés, et on parlera d'ailleurs de votre implication avec Hiver Solidaire, Les Enfoirés qui vous demandent de venir les rejoindre. Vous n'y allez pas, parce que de votre côté, sans photographe, sans caméra, vous faites beaucoup, beaucoup de choses, et on va l'évoquer tout à l'heure.
Bah, je pense qu'il me fallait un peu de temps. Et ils ont été si élégants, si gentils envers moi, les Enfoirés, parce qu'ils ont vraiment compris quelle était au fond mon intention. C'est-à-dire que je veux exactement la même chose qu'eux. Depuis le début, depuis toujours, c'est un de mes combats. En revanche, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y projeter, à me sentir légitime à être là-bas. Donc ils m'ont tendu la main tout le temps très gentiment à me proposer d'écrire une chanson. Donc je l'ai fait, c'était un premier pas avec eux.
Ouais.
Et évidemment qu'à un moment je vais me retrouver sur scène avec eux. Il faudra que je rejoigne cette troupe parce que ce sera un bonheur. Voilà, ce sera beaucoup de plaisir et surtout ce sera signe que on a fait un chemin ensemble.
Alors retournons sur le plateau de The Voice. Il y a 5 ans, vous faisiez la première partie de Florent Pagny. Viennet. Mmh. Et dans 3 mois, donc à peine, et ben vous serez comme lui, un juré tout puissant qui fait ou défait les destins. Parce que c'est quand même ça, The Voice.
Oh là là, ouais, ça fout la presse.
vous nous promettez d'être cash et en même temps, vous dites que vous vous sentez plus proche des candidats que des jurés.
Bah, c'est vrai que les jurés ont une immense carrière, tous ceux qui sont là. Hein. Vraiment, hein, je suis vraiment le plus jeune. Même je regarde tous les autres jurés, je réfléchis, je pense que je suis vraiment le plus jeune de tous les jurés de The Voice.
De façon historique.
Donc clairement, ce sont que des gens qui ont une immense carrière, belle. La mienne est très récente, très jeune. Donc franchement, évidemment que je suis plus proche techniquement des gens que je vais avoir en face de moi, plutôt que ceux qui seront à mes côtés. Donc je serai face à des débutants et je serai heureux de pouvoir leur dire, moi qui ai 4-5 années du coup d'avance sur eux,
oui.
Par rapport à leur arrivée dans le métier, leur dire un petit peu ce que je sais de ces 4-5 années et essayer un petit peu de les emmener.
Voilà. Leur dire, par exemple, que c'est pas parce qu'on perd à The Voice qu'on n'a pas un destin de chanteur et
oui,
c'est pas parce qu'on gagne The Voice qu'on fait forcément une carrière.
Ah, c'est clair, ça c'est l'histoire qui le prouve, évidemment. Voilà, si Louane, qui est quand même, c'est une immense chanteuse.
Elle n'avait pas gagné The Voice.
Elle n'avait pas gagné The Voice.
Mais oui.
Ça arrive, c'est comme ça. Voilà, il y en a, bien sûr, c'était évident. Kenji, c'était sûr. C'est le recordman, quoi. Mmh. Voilà, il était fait pour ça, c'était une destinée. Mais évidemment qu'il faut trouver ce qui nous correspond. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai jamais pensé à faire The Voice en tant que candidat avant. Donc c'est juste, peut-être, je ne m'y voyais pas moi. Et il se trouve qu'il y a des gens très talentueux qui à la fin gagnent pas The Voice et qui en fait font un joli chemin derrière.
Bien sûr. Alors Vianney, vous savez que tous les samedis soirs dans le fauteuil rouge de The Voice, ça va vous faire basculer dans une autre sphère de notoriété. Vous allez devenir là pour le coup vraiment l'intime de tous les Français. C'est une exposition magistrale.
Ouais. Et en fait, moi c'était un des trucs aussi qui me retenait, je dois reconnaître.
C'est-à-dire?
Bon, je sais pas, je me disais non, mais j'ai déjà l'impression que c'est beaucoup. J'ai pas spécialement. C'était vraiment se poser la question, est-ce que j'ai envie d'être dans une autre sphère de notoriété? Et je n'avais pas envie. En revanche, j'en suis arrivé à la conclusion. Déjà, moi, mes proches, ils me disaient, mais attends, mais t'es débile ou quoi? T'es déjà connu. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours du mal à réaliser que, en fait, j'ai déjà une notoriété. C'est juste. C'est déjà d'accepter ça. Donc finalement, le pas n'est pas si énorme en allant à The Voice. C'est pas comme si d'un coup, j'allais pouvoir remplir des salles et tout. C'est mes proches souvent qui me rappellent, qui me disent « Hey, oh, Vianney, t'es un chanteur hein. !»
Non, mais c'est absolument extraordinaire de vous entendre dire ça alors que vous avez triomphé plusieurs soirs de suite en remplissant Bercy et encore, il y avait tous ceux à l'extérieur qui pleuraient de désespoir parce qu'ils auraient bien aimé pouvoir entrer. Mais voilà. Vianney tel qu'en lui-même, et c'est cette intégrité, cette modestie qui fait qu'on l'aime tant. Alors, J'ai plein de questions à vous poser, Vianney. Avec Amel Bent et Marc Lavoine, vous connaissez bien Florent Pagny, on l'a dit, vous avez fait,
ouais,
quand vous avez démarré,
partie.
Sa première partie. Mais Amel Bent et Marc Lavoine.
C'est Amel que je connais pas mal, ouais, je la connais pas mal, parce qu'on a, on allait voir des matchs de tennis ensemble, et puis on s'entend bien, j'aime bien, c'est une grande gueule. Je l'aime beaucoup, cette fille. Elle est chouette, elle est pleine de franchise et de naturel, j'aime beaucoup. Même son mari, je le kiffe, on a bien discuté une fois, il est vraiment what the fuck, je l'aime beaucoup.
Ouais. Bon, la femme de votre vie est violoncelliste. C'est un art extrêmement difficile, hein, que celui qui consiste à jouer du violoncelle. Sans doute le violon et le violoncelle sont les instruments les plus exigeants qui existent. Vous vous rejoignez sur les mêmes musiques.
Oui.
C'est vrai. Ça, c'est merveilleux.
De pouvoir partager de toute façon avec la personne de notre vie ce qu'on aime, c'est évidemment, c'est un luxe. Mais je pense même surtout que dans nos métiers, vous êtes bien placés aussi pour le savoir. Et quand on a une passion comme ça, on fait un métier de passion ainsi, il faut vraiment quand même pouvoir le partager. Même si l'autre n'est pas forcément, ne fait pas le même métier précisément, mais il faut quelqu'un qui comprenne. C'est tellement, évidemment, ça paraît évident, mais parfois on essaye le chemin inverse. On dit je vais essayer de prendre quelqu'un qui n'en a rien à faire et tout. C'est quand même too much. Non, il faut quelqu'un qui comprenne, qui supporte, parce que c'est un métier de passion qui
bouffe la vie. Vampirisant, hein.
Voilà, on est d'accord.
Vampirisant.
Voilà.
On reste sur ce mot. On retrouve tout de suite Vianney.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
N'attendons pas, Jean de Vianney. L'injonction est belle et lourde de sens. Vianney, on entre dans l'hiver, donc les températures vont chuter drastiquement, la pluie parfois, la neige, le gel. Comment allez-vous faire, vous qui, chaque hiver et depuis de nombreuses années, faites des maraudes la nuit dans Paris avec l'association Hiver Solidaire qui secourt les SDF, comment allez-vous faire pour vous partager entre ce bénévolat qui répond à votre foi et puis votre vie de chanteur populaire qui fait des concerts dans les Zéniths et qui, on vient d'en parler, sera juré à The Voice. Ça fait beaucoup de vie en parallèle, tout ça.
Oui, il faut faire des choix à certains moments. C'est sûr que je ne peux pas m'investir aujourd'hui comme je le faisais quand j'étais étudiant. En plus, mon école, mon école de stylisme, c'était vraiment à 100 mètres de là où on dormait avec les sans-abri. Donc c'était très facile, je faisais, puis le matin à 8h, je me levais, j'étais direct en cours. Voilà, c'est sûr, je ne peux plus avoir cette vie-là. Mais ça n'empêche que j'essaierai de faire quelque chose. Comme tous les ans, j'arrive à faire quand même quelques petits trucs.
Vous avez trois frères, un frère aîné de 31 ans, un autre de 28 et un de 22 ans. Je sais qu'il y a un des jeunes frères qui est romancier et terriblement talentueux. Mais quelle vie ont choisi vos autres frères?
Les autres, c'est des grands discrets. Il me dit, s'il te plaît, Vianney, parle pas de nous.
À ce point-là.
Ah ouais. Donc franchement, je les aime. Bisous les frérots, mais vous voyez, je vous écoute, je parle pas de vous.
Bon, alors, on respecte ça. Mais elle les amuse, cette gigantesque notoriété qui est la vôtre.
Ouais, je pense qu'ils... Bien sûr, ils sont habitués maintenant, mais ils m'ont toujours... En fait, je pense qu'ils ont toujours veillé à ce que je vive bien le truc. J'ai toujours senti chez eux, non pas une inquiétude, mais une veille. Qui étaient là. Ils étaient toujours là à veiller, à regarder si je vivais bien les choses. Eux, visiblement, ça se passe bien. Vu que je fais attention justement à respecter leur petit espace.
Ça se passe bien.
Ouais.
Et vos parents, ils étaient présents, par exemple, au dernier Bercy,
à la
Paris.
Oui.
Ouais. Ils étaient au milieu du public, les yeux écarquillés.
Ouais, mes parents, ils sont présents tout le temps, en fait, bien sûr. Après, c'est des gens de la vie active, hein, donc ils ont leur vie. Mais je partage tout avec ma famille. Hein. J'essaye, même si en ce moment c'est dur, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses. Une sortie d'album, c'est ça. J'ai l'impression de ne pas les voir, pas leur parler en ce moment. Mais on essaie quand même toujours d'avoir ce lien.
Alors, on a dit à l'instant que la femme de votre vie est violoncelliste. Est-ce qu'il vous est arrivé, Vianney, de demander à votre épouse de vous accompagner sur scène, vous qui généralement êtes seule en scène avec votre guitare?
Non, mais je joue parfois avec des musiciens.
Rarement.
Ouais, mais de plus en plus.
Ah.
Oui, sur la tournée, c'est vrai que j'étais tout seul guitare-voix pendant 300 dates, un truc comme ça. La prochaine tournée, je vais faire une heure guitare-voix et une heure avec des musiciens. Voilà, histoire juste d'essayer de proposer un truc un peu différent aux gens aussi. Et puis à moi, parce que voilà, 300 dates tout seul, après on se dit que ça va être bien d'être accompagné un peu. Donc oui, je vais le faire, bien sûr.
Vous savez que Julien Clerc était totalement bluffé par ça, parce qu'il est allé vous voir sur scène, il trouve absolument magistrale la façon dont vous tissez le lien avec le public, et il est bluffé par le fait que vous étiez seul sur une scène immense, mais elle était habitée comme ça par une espèce d'énergie, de foi, par voilà, toute cette musicalité. Y a quelque chose qui surprend beaucoup dans ce métier, la manière dont vous l'abordez, qui est tellement à la périphérie de ce que font les autres.
Je sais pas, en fait j'arrive pas... Moi, ce que je sais, c'est que j'aime réellement ce que je fais. C'est-à-dire, quand je dis que j'aime réellement, c'est que c'est... Ça m'obsède, moi, la chanson. C'est pas un hobby. Hein. C'est pas un hobby, c'est une partie de moi, vraiment. Donc j'ai pas, au moment où je monte sur scène, je me pose zéro question. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pas le trac ou quoi. C'est que c'est... Je fais juste ce pourquoi je respire. J'ai ce sentiment-là. Hein. C'est rien d'autre, quoi.
Alors, Vianney, vous n'avez que 29 ans. Vous avez déjà vécu 1000 vies en voyageant, parfois, en solitaire. Mais depuis 5 ans, sous le regard bienveillant de millions de personnes. Votre nouvel album... composé de la manière la plus intime qui soit, avec les mots qu'on dit à ceux qu'on aime, a pour titre « N'attendons pas ». Et pourtant, la planète entière est en attente. On ignore tout du futur immédiat. Alors, n'attendons pas de quoi ? De rêver, d'aimer ?
C'est tout ça. Parce que moi, ce que je chante dans la chanson, c'est « N'attendons pas de vivre ». Mais quand je dis vivre, c'est...
Vivre, c'est justement rêver, aimer.
Moi, ouais, c'est aller au bout de l'instant. Voilà, savourer l'instant. Embrasser nos passions, nos envies, embrasser qui on est, le chemin qu'on a envie de suivre. Voilà, ne pas trop regarder le passé, ne pas trop s'intéresser au futur. Finalement, vraiment se concentrer sur le moment présent. Voilà, je pense que ça c'est finalement ce qui rend libre et du coup heureux.
Vous me promettez de revenir bientôt, n'est-ce pas ?
Ah, j'aimerais trop. Ouais.
Alors, en attendant, Vianney, au printemps, la tournée de l'album N'attendons pas va passer par l'Olympia les 11, 12, 13, 29, 30 et 31 mars. Et puis, à l'automne et l'hiver 2021, tous les Zéniths de France et la Cor Arena de Paris, autrement dit Bercy, le 14 décembre, seront à vous. La tournée va se poursuivre jusqu'en avril 2022. Ça va être magnifique.
Merci, ouais, j'ai hâte. J'ai bien hâte.
Carrément. Je vous dis à très, très, très vite.
Merci Isabelle, à très vite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.